seulement la casse au pied qui se rebelle. Nous ne sommes pas seulement capables de produire une analyse correcte pour mettre sur pied une stratégie efficace. Nous ne sommes pas seulement des camarades au sein d'une lutte de libération. Tout cela est vrai, mais est pour ainsi dire augmenté, rendu splendide et heureux et puissant par la preuve que j'ai moi-même expérimenté que les femmes peuvent être pour d'autres femmes des créatures à qui l'on fait confiance, à qui l'on peut se confier, avec qui on est bien, avec qui on peut jouer de la flûte et du tambourin des nuits entières, avec qui on peut s'amuser à danser, à discuter, à dessiner des projets et à les réaliser.
Aujourd'hui, nous vous parlons d'un livre venu d'Italie qui vient d'être traduit et publié en France cette année et dont le titre est
Non credi di avere dei diritti.
Ne crois pas avoir de droit. Écrit en 1987, le livre relate 20 ans d'expérience féministe collective à Milan. Et entre 1966 et 1987, il s'en est passé des choses. Pendant ces années, l'organisation de la société italienne est remise en question à tous les niveaux. Des grandes luttes pour plus de droits et de liberté ont vu le jour. Les mouvements féministes ont été sur le devant de la scène et ont joué des rôles moteurs, connaissant avancées, victoires, mais aussi dissensions, réflexions divergentes et essoufflements. À travers ce récit, écrit à plusieurs mains en 1987, traduit en 2017, résumé pour vous aujourd'hui, on veut vous donner à entendre le cheminement collectif de ce groupe de femmes, un groupe mouvant qui a expérimenté plusieurs formes d'action politique. Depuis le groupe de parole jusqu'à la parution du livre, en passant par la librairie des femmes de Milan ouverte en 1975, nous vous proposons un voyage dans le temps et dans le féminisme milanais. Il y a très peu de traces d'expériences collectives féministes racontées par celles qui les ont vécues. C'est pour cette raison qu'on consacre aujourd'hui une émission entière à ce livre, car on le considère rare et précieux, et parce qu'il nous éclaire et nous inspire dans nos luttes d'aujourd'hui. Donc classiquement par le chapitre 1 pour vous présenter la lecture que nous on a faite, donc c'est pas celle que tout le monde ferait, c'est celle que nous on fait de ce livre. Donc dans le chapitre 1, ça commence par le début, et 1966, et un événement qui marque le mouvement féministe italien, c'est la parution d'un manifeste, le manifesto programmatico del gruppo Demo. Des mots, ça voulait dire démystification de l'autoritarisme patriarcal, et aussi la parution du livre Nous crachons sur Hegel. Donc en italien, ça donne
Sputiamo su Hegel.
Et donc Claire, toi qui parles italien, tu as pu avoir accès à ce texte.
Donc je l'ai lu, bien qu'il soit très complexe, donc c'est même pas la langue, parce que je pense que je l'aurais lu en français, ça aurait été pareil, parce que c'est assez, des fois, compliqué de comprendre. Mais donc, Carla Lanzi, c'est un peu une des chefs de file du mouvement féministe italien, et en fait, l'origine de cette pensée, en tout cas de ce texte-là, c'est une vision, une pensée de la différence. Donc après, ce qui est étonnant pour nous, ou en tout cas Lilith Martin et les autres, peut-être dans les filiations de pensée féministe dans lesquelles on s'inscrit, quand on dit pensée de la différence, on peut dire « ouh, bouh, caca, c'est dégueulasse !» Parce qu'on se réfère tout de suite à l'essentialisme, quoi, au fait de baser la différence sur la différence biologique entre les sexes. Elle, c'est pas tout à fait ça, leur posture, même si des fois on a l'impression que ça l'est quand même. C'est ça qui est un peu particulier. Et en fait, alors je sais pas après si comment elle l'explique dans le livre, comment elle se réfère à ça, en tout cas le collectif qui a écrit le livre. Mais l'idée de Carla Lanzi, c'est de dire que en fait, c'est une différence de base, les hommes et les femmes, mais qui est pas tant biologique que sociale, mais qu'il faut baser la lutte sur cette différence parce que de toute façon, les femmes, elles sont absentes de l'histoire. Puisque l'histoire, elle a été entièrement écrite et définie par les hommes. Et c'est pour ça que ça s'appelle « Nous crachons sur Hegel », parce que Hegel, c'est... alors, je connais pas super bien Hegel, mais c'est le penseur du sens de l'histoire, en fait. Donc, de la même manière que, je sais pas, en tant que féministe, on peut cracher sur Freud, parce que c'est le penseur de la psychanalyse appliquée à un modèle purement masculin, quoi, avec un regard purement masculin, bah, elle, c'est un peu dans la... Moi, je l'ai compris comme ça, dans la même idée de... On crache sur le penseur de l'histoire parce que de toute façon, il pense l'histoire qu'à travers un regard d'homme. Voilà.
Et donc, j'ai dit une bêtise parce que c'est donc en 1970 que ça sort, ouais. Je suis plus tellement sur les gueules. Et là, on apprend dans le livre aussi que, en fait, Carla Lanzi est aussi l'auteure secrète du manifeste Manifesto di Rivolta Femminile. Ouais. Donc, Rivolta Femminile, qui était un autre groupe féministe. Et donc, bah, ces deux textes, ils ont vraiment un grand retentissement dans l'espace politique de gauche italien. Et parallèlement à ça, ou en même temps, avant, on ne sait pas trop, en tout cas, ces femmes-là qui ont écrit le livre à Milan, autour de ces deux groupes de mots et Rivolta Femminile, elles pratiquent l'autoconscience. Donc nous, en français, on dirait plutôt les groupes de parole. Voilà, les groupes de parole, petits groupes de femmes qui parlent pour parler de leurs problèmes. Et donc, elles disent que l'autoconscience fut la pratique politique prédominante à Milan entre 1970 et 1974. Il y a trois publications qui paraissent pendant ces années-là. Donne e bello, Femme c'est beau, publié en 1972 par le groupe Anabasi, et aussi la revue Sotto Sopra. Donc Sotto Sopra, en fait, c'est une revue qui va durer longtemps et qu'on va suivre tout le long du livre. Et le parti pris qui était intéressant, en fait, dans cette revue, c'est que le collectif de rédaction, en fait, n'écrivait rien et ne choisissait pas les textes. En fait, il publiait dans Sotto Sopra, donc ça veut dire sans dessus dessous, dans le journal, en fait, il publiait tous les textes qui arrivaient, sans les modifier. Donc c'est vraiment un parti pris fort. En fait, l'idée, c'est de valoriser les femmes qui vont écrire des textes, peu importe ce qu'elles écrivent. Et l'objet, c'est plutôt ça, c'est de donner de la confiance, enfin, comme je l'ai compris, aux autrices, que de produire quelque chose d'intellectuellement solide, quoi. Et en fait, le premier aussi, elle voulait produire du débat. Et en fait, ça, c'est un peu échoué. En fait, le premier numéro, quand il paraît, il y a aussi Lotta Feminista qui publie un long texte, en fait, dans Sotto Sopra. Et Lotta Feminista, c'était un peu le courant, peut-être pas adverse, mais en tout cas qui militait pour toute autre chose. En fait, elles étaient pour le salaire domestique. Donc c'était un autre courant de féminisme qui pensait que l'émancipation viendrait avec l'obtention d'un salaire domestique pour les femmes. Voilà. Et donc, finalement, elles se rendent compte qu'il n'y a pas tant de débats que ça qui émergent un an après le... Enfin, elles disent... Ouais. Elles trouvent qu'il n'y a pas tant de débats qui sortent, enfin, pas assez à leur goût. Et aussi... En fait, elle commence à ressentir que l'autoconscience, ça a un caractère positif, mais néanmoins insuffisant. Et donc, elle commence à réfléchir à comment elle pourrait l'étayer ou la renforcer. Mais en fait, elle commence quand même à s'ennuyer. Donc là, c'est 1974, elle sent qu'il faudrait penser à autre chose. Et en même temps, en 1974, elle rencontre un groupe féministe qui s'appelle Psychépo. C'est pas nommé dans le livre, mais j'imagine que c'est ça, parce qu'elle parle d'une femme qui s'appelle Antoinette, elle parle voilà, d'un groupe féministe très actif qui parle beaucoup de psychanalyse. Et donc ça, c'est en 1973. Et là, en fait, elle commence aussi à faire...
quelque chose qu'elle appelle la pratique de l'inconscient. Donc la pratique de l'inconscient, on a eu du mal vraiment à comprendre, et elles-mêmes, elles le disent en fait, que c'est un peu la faiblesse de cette pratique, qu'elle est difficile à expliquer. Elles essayent quand même de l'expliquer, mais on ne comprend pas vraiment. En fait, je pense que c'est le but, c'est de se faire une espèce de psychanalyse collective et de libérer le désir féminin.
On voit qu'Agnès Martin et les autres, on est super calés en psychanalyse. Mais peut-être que psychépo, on peut rapidement dire ce que c'est, oui, aussi, pour illustrer, parce que justement, c'est psychépo, c'est une tendance du mouvement de libération des femmes, mais à l'origine, quoi, qui est plutôt, pour le coup, essentialiste, dans le sens différentialiste, dans le sens qui base la différence homme-femme vraiment sur une différence biologique. Et en fait, il y a eu un combat, quoi, au sein du MLF entre la tendance essentialiste et puis la tendance... on va dire quoi, égalitariste ou matérialiste, en tout cas, qui vraiment s'attaque à la différence en termes de construction sociale, et même qui parle pas que de différence, quoi. Je sais pas si je le résume bien, mais c'est pour dire que du coup, cette collusion entre les féministes italiennes, où la tendance de type Londi, elle était forte, et puis psychépo, bah, ça a aussi amené à penser peut-être que les féministes italiennes, elles avaient exactement le même positionnement, alors que c'est pas forcément tout à fait le cas. Après, là, on parle de tissu large, en fait, où il y a peut-être possible plein de, à l'intérieur même des groupes, plein de tendances différentes, quoi.
Et il y a un truc qu'elles disent que j'aime bien, donc je vous lis. Elles disent « Sous l'égide de cette nouvelle politique s'ouvrit une période de socialisation féminine qui se poursuit encore aujourd'hui. Les débuts furent excitants, bien sûr. On faisait comme d'habitude des réunions et des discussions, mais plus volontiers des fêtes, des danses, des dîners, des vacances, des voyages. On organisait le tout du mieux qu'on pouvait, des fois très bien, et dans tout cela, il y avait des amitiés, des amours, des commérages, des larmes, des fleurs, des cadeaux. C'était une manière insolite de faire de la politique, et pour beaucoup, ce fut la découverte que le système des rapports sociaux pouvait être changé, non pas abstraitement, comme nous l'avons toutes appris, mais concrètement, en inventant de nouvelles façons de dépenser notre énergie. » Donc ça, c'est assez classe, et en fait, moi, je trouve que ça fait aussi écho à ce que nous, on vit aujourd'hui, par exemple, dans les rencontres Radio Rageuse, donc c'est un réseau d'émissions féministes dont fait partie Radio Lilith. En fait, ce qu'elles décrivent des rencontres avec les Françaises, ou même... ensuite, là, on va parler des rencontres de Pinarella. C'est vrai que c'est pas mal des formes politiques que nous, on peut expérimenter en ce moment, quoi. Mm-hmm. Donc, je passe aux rencontres de Pinarella. Donc, ça, c'est un événement aussi, j'ai l'impression, qui a marqué le féminisme italien dans les années 70. Donc, c'était en 1975, donc dans un village qui s'appelle Pinarella, au nord de l'Italie. C'était plusieurs centaines de femmes qui se sont réunies. Et là, il a commencé encore... on a dit déjà avant qu'il y a l'ennui qui commençait à naître des groupes d'autoconscience. Et là, pendant les rencontres de Pinarella, elle se rend compte de plusieurs choses. De l'agressivité, en fait, qui peut être... à l'œuvre quand on se réunit entre femmes. Et elle se demande, mais pourquoi cette agressivité ne s'exprime-t-elle jamais envers les personnes que l'on estime être en possession d'instruments culturels solides ? Voilà, donc ça c'est une question qui est posée, et donc elles y répondent en disant « La douleur d'être méprisée, si elle est supportée au sein de la société masculine, se révèle insupportable au sein des groupes de femmes. » Nous y étions enfin, mais l'apparition de cette douleur risquait d'affecter toute autre pensée. Donc c'est ça, que dans les groupes dans les grands groupes, c'était encore plus chiant, quoi, pour les femmes qui étaient là, de sentir qu'elles comprenaient pas tout. Elles parlent de femmes qui prennent des crises d'angoisse parce qu'elles comprennent pas ce qui se passe dans les débats, qu'elles arrivent pas à intervenir, qu'elles se sentent trop mal et tout. Mais tout ça, en fait, c'est vraiment discuté, et je trouve que c'est hyper intéressant que les choses, elles sont vraiment vraiment beaucoup dites, et elles parlent énormément. Voilà.
Bisogna fare una distinzione anche nel sud. Il proletariato, non parlo del proletariato contadino, è molto libero. La piccola borghesia è ancora ipocrita. E i contadini, allora la situazione è diversa per loro che non posseggono niente. L'onore della donna è la ricchezza. Per tutto quello si è perduto tutto. Si arriva a questi assurdi che sono certo deprecabili. Una famiglia di 4 figlie muore di fame perché solo il padre a lavorare. Le figlie non possono andare a lavorare perché possono perdere la verginità lavorando. Allora si sta a casa, ci si nutre di pane e fichi e basta.
On vient d'écouter un extrait du film Comizi d'Amore de Pasolini. Donc c'est un reportage, un espèce de micro-trottoir qu'il a fait en 1960 sur l'amour et la sexualité en Italie. Et donc Claire, toi qui comprends l'italien, qu'est-ce qu'elle a dit la dame ?
Alors, pour résumer, elle dit au début le prolétariat est très libre par rapport à la bourgeoisie qui ne l'est pas, qui est très coincée. Et elle parle de la situation des paysans et elle dit dans les familles paysannes le problème c'est que c'est l'honneur des femmes qui est important et dans l'honneur il y a le fait de pas travailler parce que c'est comme si elles perdaient leur virginité si elles allaient travailler. Et donc on retrouve des cas de familles où il y a 4 filles par exemple dans la famille et comme tout est basé sur le travail du père, et ça fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. Voilà.
Ok, merci. On revient donc au livre Ne crois pas avoir de droit. Après la présentation qu'on vient de faire un peu donc des deux groupes de femmes féministes assez importants en Italie dans les années 70, la recherche un peu de sens, de concept, d'échange avec d'autres femmes, tout ça. Après, elles sont confrontées en Italie à deux problèmes qui sont liés à deux lois en fait qui voient le jour, ou des propositions de loi en tout cas qui voient le jour en Italie. C'est pour l'accès à l'avortement et l'autre c'est contre les violences sexuelles. Alors là, on va pas avoir le temps de tout présenter, de parler de tout, donc je vais plutôt me consacrer à la loi pour l'avortement et quelles ont été les dissensions au sein des groupes de femmes et de féministes en Italie à ce moment-là, puisque c'est ce dont elle parle dans le livre, et puis surtout la position donc de Rivolta Femminile, mais aussi du groupe de femmes qui écrit ce livre. Puisque donc l'avortement en Italie était interdit, donc pratiqué clandestinement, et dans les années 70, c'est la première fois que l'expérience des femmes justement niée et clandestine jusqu'à là était mise au centre de la scène politique et devenait visible. Du coup, c'est un mouvement qui a vraiment rassemblé plein de femmes et qui ont répondu massivement à cette lutte. Alors même si aussi dans les femmes qui allaient manifester pour le droit à l'avortement, beaucoup de femmes exprimaient aussi une volonté d'exister socialement, un refus que le rôle de mère soit l'unique forme d'autoréalisation féminine, avec l'idée aussi de séparer du coup sexualité et procréation. Mais ça rassemblait vraiment beaucoup de femmes, les manifestations et la lutte pour ce droit à l'avortement. Et il y a quand même quelques groupes de féministes, notamment donc ces femmes qui écrivent ce livre et Rivolta Femminile, qui du coup c'est quand même pas mal les femmes qui ont pratiqué aussi l'autoconscience par ailleurs en fait, qui arrivent dans les années 70 avec des années quand même de pratique de groupes de femmes, de groupes de parole, et qui ont pris assez rapidement des distances avec ces revendications. Je vous lis ce que Rivolta Femminile dit par rapport à ces manifestations et au fait qu'elles prennent de la distance avec la campagne politique. Nous, de Rivolta Femminile, soutenons que 3 millions d'avortements clandestins comptabilisés en Italie chaque année constituent un nombre suffisant pour considérer caduque la loi anti-avortement. Nous refusons aujourd'hui de subir l'affront de quelques milliers de signatures, masculines et féminines, qui servent de prétexte pour mendier auprès des hommes du pouvoir, des législateurs, ce qui en réalité a été l'expérience exprimée par des milliards de vies de femmes qui ont connu la boucherie de l'avortement clandestin. Nous obtiendrons la liberté d'avorter et non pas une nouvelle législation, parce qu'ainsi seulement nous ferons de ce chapitre fondamental de notre oppression le premier chapitre de prise de conscience depuis lequel minait la structure de la domination masculine. Donc voilà, du coup, elles expliquent, je vais les préciser un peu les points, pourquoi elles ne prennent pas part à ces luttes-là, donc, parce qu'elles disent qu'effectivement, demander au système patriarcal de légiférer sur ce que les femmes ont expérimenté depuis des années pour elles, ça a peu de sens. Ce qu'elles disent aussi, c'est que lutter pour l'avortement, dans le contexte là dans lequel elles se trouvent, c'est les remettre dans les groupes politiques qu'elles ont choisi de quitter pour faire justement des groupes de femmes et d'autoconscience, parce que c'est aussi ce qu'elles expliquent au tout début du livre, c'est des femmes qui luttaient dans les milieux d'extrême gauche, dans des groupes mixtes, et qui ont décidé à un moment donné de se séparer parce que justement elles sentaient que leurs besoins de femmes n'étaient pas entendus et n'avaient pas de place. Du coup, elles ne veulent pas retourner dans ces groupes politiques mixtes. Et il y a d'ailleurs des textes qui sont cités dans le livre qui analysent les positions différentes entre les groupes de femmes et les groupes politiques mixtes, ainsi que les questions que ça soulève. Il y a des femmes qui écrivent, qui se demandent quel sens ces manifestations ont-elles si les hommes, plutôt que de mettre en question leur comportement sexuel, marchent pour obtenir l'avortement libre sur un corps qui n'est pas le leur? Quel avantage ont les femmes à s'allier avec l'autre sexe sur une question qui implique la sexualité et le rapport aux hommes? Et ça, c'est dans des groupes où, justement, dans les groupes de parole, elles étaient à ce moment-là en train d'essayer de parler et de mettre en mots leur sexualité. Et du coup, elles disent que c'est plutôt là le problème principal et ce à quoi elles s'attellent. Et que du coup, bah, c'est pas l'avortement, et encore moins avec des hommes, et avec des hommes qui vont faire des lois. Elles critiquent aussi le fait que l'avortement, enfin en tout cas l'accès à l'avortement, ça serait le choix cynique d'un État qui commence à considérer plus rentable de prévenir les naissances. Du coup, elles ont un peu un regard de la gestion de la société par les hommes et sur le corps des femmes. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on peut retrouver par ailleurs que l'avortement de masse dans les hôpitaux, c'est pas forcément une conquête, dans le sens où ça peut être assez violent, ça peut être super culpabilisant. Et elle nie jamais que l'avortement clandestin, c'était pas violent. Mais du coup, elle questionne quand même un peu le fait que ce soit géré en masse dans des hôpitaux. Donc, la réponse, la proposition qu'elles font, elles, c'est une proposition de dépénalisation plutôt que de faire une loi, avec pour elles un peu l'idée qu'il y aurait des actes interdits et puis du coup de l'autre côté des actes légalisés. Donc le fait que, comme l'avortement était interdit, la seule réponse ça serait de le légaliser, et elles disent bah non, en fait il y a une large gamme de comportements entre les deux qui sont tolérés ou qui sont à inventer, à rendre possible, et que pour elles le fait juste de dépénaliser, ça permet de rendre possible plein d'autres solutions du coup pour répondre à ce problème de l'avortement clandestin. Alors après tout ça, ça a été perçu comme intéressant théoriquement par plein d'autres femmes, mais ça n'a pas suffi à modifier le schéma politique en route pour la légalisation de l'avortement. Alors les femmes du livre, hein, ou de Rivolta Féminilée, elles ont un regard quand même assez critique sur le fait que cette loi soit approuvée. Elles disent: quand la loi fut approuvée et entrée en vigueur, les mêmes femmes qui l'avaient espéré se rendirent compte qu'elle respectait fidèlement les exigences, les préoccupations et les compromis de ceux qui l'avaient conçue, c'est-à-dire d'hommes qui voulaient satisfaire un corps social clairement dominé par le point de vue masculin. Le plus violent moyen de contrôle des naissances était désormais entré officiellement dans les normes qui règlent la société. Donc voilà, elles y vont un peu fort, mais du coup c'est vrai que je trouvais que lire ces... Enfin que moi en tout cas, avoir ces points de vue là que j'avais pas forcément réfléchi avant, ça m'a vraiment donné un peu de la matière à penser, à réfléchir. Pour elle, en plus, traiter de cette loi-là qui veut venir encadrer l'avortement, ça me permet de s'interroger, de se positionner plus globalement par rapport au droit, à la justice, et sous l'angle qui est du coup le leur là, de la différence sexuelle. Et elles disent qu'il n'existe aucune loi, contrairement à ce que certaines semblent croire, qui puisse donner de la valeur à la sexualité féminine si celle-ci n'est pas reconnue socialement. D'autre part, il faut garder à l'esprit que les femmes ne forment pas un groupe social opprimé homogène à l'intérieur de la société. Les femmes sont un sexe riche de diversité en son sein, et comme le sexe masculin, elles occupent différentes positions sociales. La lutte des femmes, faite pour donner existence, valeur, liberté à la différence féminine, doit donc intégrer une multiplicité d'intérêts, de parcours, de gestes, d'expériences. Les femmes qui se fient à l'instrument de la loi ne peuvent pas tenir compte de la complexité des choix féminins parce que la loi a nécessairement la forme d'une prévision générale abstraite. De cette manière, l'existence du sexe féminin se trouve niée. Il n'existe qu'une condition féminine, entre guillemets, dans laquelle il se pourrait qu'aucune femme ne se reconnaisse véritablement. Donc voilà un peu l'idée. D'ailleurs, je pense que ne croit pas avoir de droit, ça vient aussi un peu se lier à ce qu'elles mettent en avant là-dessus. Elles disent que les institutions étatiques, le Parlement, les tribunaux, qui ne sont pas marqués par la différence sexuelle, pourraient être vues comme neutres, alors que ce sont des institutions qui ont été conquises par la pensée masculine et qui se fondent jamais, on le voit là, sur l'expérience humaine féminine dans sa diversité. Voilà, donc après, leur idée, c'est de changer... Le droit en pratique, avec ce qu'on a vu un peu dès le début, qui est tout le long d'un livre, ce qu'elles mettent en avant, c'est une expérience féminine commune, la confiance entre les femmes, la médiation entre les femmes, avec l'idée qu'il y ait entre soi et les institutions, qu'il y ait des femmes qui fassent médiation plutôt que des hommes. Et voilà, pour elle, voilà, c'est ça. C'est la création de nouveaux rapports sociaux entre femmes qui sortent de l'isolement et de l'homologation, devient ainsi source d'existence sociale et donc de droit. Du coup, elles finissent un peu comme ça.
Et si je peux compléter juste sur l'aspect juridique, parce que du coup, dans Nous crachons sur Hegel, là, il y a ça très très fort comme pensée, c'est de dire, c'est à nous, elle dit, de poser une situation. C'est-à-dire, c'est pas rentrer dans un cadre qu'on nous pose, mais c'est à nous de poser la situation. Et donc, c'est ce que tu disais sur les institutions, comme elles existent au préalable, pensées par des hommes, c'est pas réclamer l'égalité, même l'égalité, c'est réclamer des petits bouts de papier, quoi. C'est ce qu'elle dit dans le texte.
Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la base, elles en parlent au tout début, et aussi un peu la base de la différence sexuelle, c'est de dire on ne veut pas être égal aux hommes, en fait, ça ne nous intéresse pas, mais c'est on veut créer quelque chose d'autre à côté qui nous soit propre et qui se base sur notre propre expérience féminine, et que le but atteint, ce n'est pas d'être comme les hommes, en fait. Du coup, elle critique aussi pas mal l'égalité.
Carla Lonzi, elle a publié Yo Dico Yo, c'est Je dis je. Je vous lis un petit extrait, c'est assez. Pardon. En t'acculturant, tu as adhéré sans réserve à une exigence qui t'exclut. Tu as voulu participer sans exister pour ce que tu es. À la fin, tu es méconnaissable. Entre-temps, tu souffres d'inadaptation. Tu attends de la solidarité pour avoir tout risqué. Selon moi, tu t'es mise dans un beau pétrin. Tu as donné ta vie pour démontrer que nous étions médiocres.
Voilà. C'est parlant, oui.
Prends ça.
Tac.
Et là, je déborde un petit peu sur la partie chapitre 3. Mais en fait, moi, je suis vraiment critique de... en préparant l'émission, ce qu'on s'était dit, c'est je pense qu'il y avait des militantes féministes qui avaient... Enfin, si l'avortement était interdit aujourd'hui en France et qu'il y avait des filles dans cette ville qui avaient ce genre de position, je pense que j'aurais juste envie de les tarter, quoi. Genre de leur dire, mais putain, il y a des filles qui crèvent en avortant. Enfin, c'est horrible, quoi. Voilà. Mais en même temps... C'est vrai que, bon, maintenant que voilà, l'avortement est légal, libre et gratuit, remboursé par la sécurité sociale, je regarde ça en toute sérénité. Et je me dis, c'est vrai que c'est intéressant quand même ce qu'elles ont de dire. Voilà, elles trouvent que les féministes qui manifestent et qui font le double militantisme, ça c'est un concept intéressant, des femmes qui militent à la fois dans les groupes de femmes et à la fois dans les groupes mixtes, elles font du militantisme et elles ont toujours l'impression de pas en faire assez. Et elle dit, mais moi j'emmerde tout ça, quoi, en gros, et je suis mon propre projet et je suis le centre de ma vie. Et moi je pense, moi j'ai envie de me réaliser, j'ai qu'une vie et voilà, le reste, j'en ai un peu rien à faire. Et à la fois, voilà, je suis tiraillée entre un truc de bon, c'est un peu moyen responsable comme attitude, mais à la fois, c'est vrai qu'en tant que femme, on est tellement conditionnée à vouloir, puis en plus avec la culture judéo-chrétienne et tout, de tout vouloir porter sur nos épaules et tout ça, machin. Enfin, je trouve que c'est quand même. Enfin, moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, de lire les trucs là qu'elle dit, Carla Lonzi, même si. En pratique, je pense que
ouais, ça m'agace un peu ce genre de...
Puis après, sur la question de l'avortement, quand même, ça rejoint d'autres positions de féministes à l'époque française aussi, quoi. De dire aussi, c'est comme un truc qu'on nous confisque, vu qu'il y a un savoir-faire autour de ça. C'est vrai qu'on peut se reconnaître là-dedans aussi. Mmh. De, bah, nous, on savait s'avorter, vu qu'on a dû le faire. Et du coup, si c'est l'institution qui remet la main dessus, bah, c'est aussi nous supprimer un savoir-faire, quoi. Ça, cette perspective, elle est intéressante quand même aussi, je trouve.
Ouais, ouais, moi je trouve que c'est intéressant ce qu'elles mettent en avant. Les critiques qu'elles font de la manifestation aussi, sur des passages où elles disent l'affrontement recherché par pure réaction nous place dans la logique où ce sont les hommes qui dominent, on veut rivaliser avec les hommes en adoptant leur forme de visibilité sociale. Je trouve que ça, c'est pareil, ça reprend ce qu'elles mettent en avant en fait tout le temps, de redire notre but c'est pas d'être égaux, d'être égal, c'est pas de faire comme eux, c'est de faire autre chose, et du coup on se reconnaît pas dans la manifestation et tout ça, et je trouve que c'est un point de vue qui s'entend. Et donc pour conclure sur ce chapitre sur les droits, donc je vous disais, il y a aussi toute une partie sur les violences sexuelles que là j'ai pas pris le temps de tout repréparer, alors je vais pas me lancer dans ce que je me rappelle. En tout cas, ce que je me rappelle, c'est qu'elles disent à la fin sur ces deux un peu grosses crispations comme ça qu'il y a eu dans les groupes féministes, c'est que l'intérêt, c'est que du coup quand même ça a fait débat. Et ça a fait avancer les groupes de femmes parce que ça les a fait réfléchir, parler, et puis même sur les points de désaccord, ça les a fait réfléchir pourquoi elles n'étaient pas d'accord, à écrire des choses. Donc voilà, elles ont tiré quand même plutôt quelque chose de positif. Et elles reviennent donc à la fin sur une position qui voudrait donner davantage d'importance et d'autorité aux moyens inventés par les mouvements des femmes et aussi et surtout par les rapports entre les femmes. Et c'est là-dessus que se finit ce chapitre, sur l'envie aussi après d'aller plus loin, d'expérimenter de nouvelles façons de s'organiser, de lutter, mais aussi sur des façons de faire ensemble en s'appuyant sur les richesses des rapports entre les femmes.
Perché, come dire, faceva le cose più avanzate, faceva lasciare i bimbi per il mondo, invece adesso non fanno così. Adesso è tutta cosa diversa, ma come libertà, sì, come libertà ce ne sono più adesso, non c'è più quelle brutte cose come una volta molti bimbi, sì, per il mondo.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. On est en train de vous faire un petit résumé de la lecture qu'on a faite du livre Ne crois pas avoir de droit, édité aux éditions La Tempête, traduction écrite en 2017 d'un livre sorti en 1987 sur des expériences féministes à Milan. Donc on attaque le chapitre 3. Le chapitre 3, donc il continue un petit peu sur ce que Élise disait, sur cette critique des manifestations et de vouloir toujours quémander des choses à un gouvernement d'hommes, l'impression de jamais en faire assez. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que on en a déjà bien parlé. Je vous lis quand même une petite citation. Qui est intéressante. Dans le fait de descendre dans la rue, la communication choisit l'élargissement plutôt que l'approfondissement et s'écrase parce qu'elle doit parler à la logique dominante, celle des hommes. Je trouvais ça assez parlant, ce truc de l'écrasement. Et en même temps, elle, en tant que groupe de femmes, vu qu'elles ne participent pas aux manifestations et qu'elles sont un petit peu dans leur petit monde parfait, tout ça, machin, elles ont quand même l'impression de ne plus avoir de rapport avec le monde. Et donc, elles choisissent d'avoir une action dans le monde. Et cette action qu'elles choisissent, c'est d'ouvrir une librairie. Donc, la librairie, elle s'ouvre en 1975. Et en fait, elle vend que des livres de femmes, écrits par des femmes. Et le financement de la librairie, il demandait 6 millions de lire, je pense. Et c'est marrant de voir que, en fait, comment elles ont réuni l'argent en en vendant des tableaux offerts par des femmes peintres.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, donc ça c'est assez marrant. Enfin, en fait, dans le livre, elles expliquent jamais c'est quoi leur profession, tout ça. En tout cas, Carla Landi, elle faisait partie du groupe. Elle était historienne de l'art. Je pense qu'il y avait pas mal de femmes, voilà, très instruites et artistes et tout ça, tout ça. Donc, ce qui explique aussi un petit peu que nous, on ait du mal à comprendre des fois leur délire. En plus, avec le truc des années 70, où je pense que il y avait un goût beaucoup plus prononcé pour les grandes discussions intellectuelles, les groupes. Je sais qu'une fois, je parlais avec des militantes de Lyon qui me disaient « Oui, on avait créé l'Union internationale des anarchistes, je sais pas quoi. » Et je dis « Ah ouais, d'accord, putain, balèze. » Et vous étiez combien ?» Il y avait Kylen, Daniel, on était 7. Et du coup, c'est toujours un peu, je trouve, ce truc de, dans les années 70, c'était vachement cet attrait qu'aujourd'hui, on rejette plutôt ça, mais de fonder un groupe qui a un nom et machin, que maintenant, on a plutôt envie de pas se nommer, tout ça. Là, c'était pas du tout ça, quoi.
Et puis, le contexte des années 70, il joue beaucoup sur leur choix. Moi, je trouve, par exemple, de pas faire de manif. C'est aussi qu'à l'époque, t'avais plein de manifs. Enfin, je veux dire, un collectif féministe maintenant qui se dirait, nous, on va pas dans les manifs. Même s'il y a la pensée derrière de pas adopter les modes masculins de l'engagement, en fait, elles pouvaient un peu se le permettre, entre guillemets, aussi, parce qu'elles étaient en opposition à des mouvements qui étaient forts, quoi.
C'est vrai.
Nous, on ferait pas de manif. Hein. On ferait quoi, quoi? Il n'y a pas grand-chose.
On fait des émissions de radio. Ouais. C'est déjà pas mal. Et donc, voilà. Elles disent aussi un autre truc que j'aime bien. Elles disent, on veut transmettre l'idée que la chose commune est donc la chose importante dans la lutte politique, que chaque femme peut faire sienne et la volonté d'être libre et non pas la créativité dont certaines sont dotées et qu'il faut très simplement leur reconnaître. Entre l'œuvre déjà réalisée et l'œuvre en cours de réalisation, entre parenthèses, la politique, la seconde est la plus importante. C'est assez classe, quand même. Et voilà. En parallèle de ça, à Milan, donc il y a la librairie qui s'ouvre et qui fonctionne plutôt bien. Et en fait, elle pourrait être comblée, mais non, puisque elles disent la modération prit la forme de la satisfaction que nous éprouvions à survivre. Donc en fait, vu que la librairie tourne bien, tout ça, en fait, elle disait que leur alternative était tangible. Elle devient tangible alors qu'avant, c'était complètement abstrait. Mais voilà, elle se trouve trop modérée, au prix d'une modération croissante. Elles disent, nous voulions toutes, d'une manière ou d'une autre, que nos projets soient grandioses et efficaces. Mais ils ne l'étaient pas dans les faits. Il fallait s'appliquer à comprendre ce qui les freinait et non pas rompre ce lien. Le lien qui unissait les choses à faire et les choses à dire. Quand même, c'est balèze. Et voilà. Je suis désolée, j'ai pas assez préparé cette émission. Ce qui est intéressant, c'est que la librairie, il y a aussi des débats que Radio Canut, par exemple, a pu connaître au début. C'est la question de la professionnalisation. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des femmes du collectif qui trouvent qu'elles devraient confier la gestion de la librairie à une ou deux techniciennes qui apprendraient à fond le métier de libraire, tout ça. Et les autres disent non. Non. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que si on compare, par exemple, à Radio Canut, qui est née à peu près dans les mêmes années, c'est vrai que faire le choix de la professionnalisation, peut-être que dans un premier temps, ça te permet de faire des choses peut-être techniquement plus classe et tout, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus dur à tenir. Et leur librairie, apparemment, elle est toujours ouverte, elle existe toujours aujourd'hui, comme Radio Canut. Et c'est vrai que les projets de ces années-là qui ont choisi de salarier des gens, etc., en fait, ça aboutit à des prises de pouvoir, des dynamiques internes qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, on ne peut que trouver que c'est super. Et donc, en parallèle, il y a un local qui s'ouvre à Milan qui s'appelle le local de Col di Lana. Et elles disent que c'était un désastre, que c'était affreux, tout ça, tout ça. Donc moi, j'avais un peu peur, en fait, quand j'ai lu ça, j'ai cru que ça allait partir en baston, enfin, je sais pas, parce qu'elles en parlaient en termes très, très durs. Et en fait, c'était pas
si grave.
Spectaculaire, en fait, le désastre. En fait, c'est plutôt que... C'est ce local, Col d'Ilana, en fait, il a été ouvert, elles ont fait des travaux. Donc apparemment, parce qu'avant, elles avaient des petits locaux, mais qui étaient un peu pourris, qu'elles aménageaient pas totalement et tout. Et elles trouvaient que c'était dommage, parce qu'avec les groupes d'autoconscience féministe, souvent, elles se réunissaient chez les femmes, donc dans des lieux confortables, beaux, bien entretenus, tout ça, voilà. Et là, bah voilà, chaque fois qu'elles avaient des locaux à Milan, là, les groupes féministes, ça payait pas de mine, quoi. Donc là, l'ambition de Col d'Ilana, c'était vraiment d'avoir quelque chose de très confortable, de très, ouais, où on a envie de venir, où on a envie de rester. Et donc ça a plutôt bien marché parce que apparemment il y avait à chaque fois 150 femmes qui viennent à chaque réunion, donc waouh. Mais il y avait que 10 femmes qui parlaient, en fait, et les autres écoutaient. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'elle disait pendant ces réunions. Alors moi, j'imagine que si c'était Carla Lonzi qui parlait de ces trucs de l'inconscient et tout, je pense que c'était agréable de l'écouter, mais que forcément, en fait, je pense que si t'es avec des gens aussi qui ont un tel niveau intellectuel, bah, t'es contente de les écouter, mais après, tu sais plus trop quoi te dire, quoi. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, les personnes qui parlaient, beaucoup, trouvaient que c'était vraiment problématique qu'il y ait que elles qui parlent. Donc, en fait, elles ont fait des petits groupes, donc 12 petits groupes de femmes, pour parler de pourquoi est-ce que tout le monde ne parlait pas dans les grandes réunions. Donc, je me dis, putain, c'est quand même vachement... Il se passe des trucs et elles réagissent, c'est pas monolithique, quoi. C'est vrai que c'est super vivant, c'est chouette.
C'est quand même la force de la non-mixité, quoi, parce que vous imaginez ça dans un groupe mixte où on s'aperçoit qu'il y a des gens qui parlent jamais, puis on dit « Ah ben, on va faire 12 mini-groupes pour savoir !» C'est quand même... à l'époque, je pense qu'en tout cas, c'est rare, mais même maintenant...
Ouais. Même maintenant, enfin, je sais pas... je veux dire, l'autre jour, j'avais proposé... Enfin, en rentrant d'une rencontre radio-rageuse, ça me fait penser... Je sais plus, à la fin d'une rencontre radio-rageuse, on avait fait le jeu des statuts. Donc, dire comment tu te sens, en mimant ça sous forme de statut de ton état émotionnel, quoi. Et du coup, on compte jusqu'à 3 et hop, tout le monde se met dans sa forme de statut de comment elle se sent. Et moi, j'ai trouvé ça trop marrant. Et une fois, j'ai proposé à une assemblée générale de Radio Canut de faire ça. Mais en fait...
Ça a pas marché.
Mais en fait, je pense que... Enfin, c'était pire que ça a pas marché. Je pense que même les gens n'ont pas entendu, n'ont pas cherché à comprendre. Enfin, c'était... Bon. Voilà. Des fois, c'est vrai que le choc des cultures entre le féminisme et le reste du monde, c'est dur. Et bon, toujours est-il que voilà, elles forment ces 12 petits groupes et elles ont sorti un Sotto Sopra, donc le journal dont on parlait au début, un Sotto Sopra spécial qui s'appelle le Sotto Sopra Rose, puisqu'il était rose. Ouais. Et en fait, pendant qu'elles font ces groupes, elles se rendent compte que aussi depuis le début, même depuis les groupes d'autoconscience, il y avait des frustrations un peu latentes qui étaient présentes, bah notamment voilà sur les déséquilibres, les différences culturelles, quoi, de capital culturel des unes et des autres, tout ça, qu'il y a aussi ouais, comme dans tout groupe, hein, même si tu veux t'affranchir de la norme, du coup, tu crées une espèce de contre-norme dans ton sous-groupe. Et que, voilà, il y a des femmes qui disent bah, y a eu un moment où c'était grave à la mode dans notre petit groupe d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. Et moi, je l'ai fait, mais en fait, je pense que j'en avais pas vraiment envie, que c'était juste un peu pour faire comme tout le monde. Et bon, bah ça, je trouve, c'est chouette aussi que ça puisse être dit. Il y a un autre truc aussi dont elles se rendent compte, qui est hyper intéressant, c'est la tendance à donner de la valeur au projet politique plus qu'à chaque femme individuellement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on disait aussi sur les manifestations, c'est que elles, ça leur fait pas envie d'aller dans une manifestation, même si peut-être abstrait, enfin de manière abstraite, elles trouvent que la manifestation, ça peut être quelque chose de bien, mais elles, elles ont pas envie parce que, hein, et ben elles y vont pas. Et il y a pas ce truc de bah tiens, je me force à y aller parce que il y a un espèce de surmoi militant qui me dirait faut que tu fasses ça. Et ouais. Et donc, vu que c'est des grosses intellos, elles disent la théorie pourrait nous aider à faire qu'il y ait bien plus de matérialité. pour s'engrainer à encore écrire des nouveaux bouquins et tout. Et voilà.
Mais ça d'ailleurs, la théorie, alors c'est de mon point de vue, mais moi j'ai habité un an à Bologne et j'ai quand même vraiment traîné dans les milieux militants, alors un peu liés à l'université, donc ça joue. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très 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 fort le rapport à la théorie, plus que dans tous les groupes dans lesquels moi j'ai milité à Lyon, en tout cas. Alors je sais pas si c'est spécifique aussi où Bologne, l'université, elle est très très importante là-bas, du coup ça peut... Mais je trouve ça marrant parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'attachement à la théorie. Et un attachement aussi à la pratique de l'autoconscience. Ça, c'est aussi
encore
intéressant. Moi, j'ai interviewé dans le cadre de mon mémoire des féministes de Bologne, du coup, avec qui je militais, que je connaissais très bien. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'elles ont gardé l'héritage de l'autoconscience très fort, même dans des collectifs qui sont, par exemple, contre le... pratiquement pas contre la non-mixité, mais en tout cas qui sont très critiques vis-à-vis de la non-mixité totale, on va dire. Là, il y avait, je me souviens, à Bologne, un collectif qui s'appelait Clitoris Trix, qui était complètement séparatiste, quoi, mais séparatiste, pas forcément dans une visée séparatiste dans la vie, mais qui faisait tout en non-mixité. Et moi, les féministes que je connaissais, elles étaient liées au collectif de la fac. Donc, elles bossaient en non-mixité dans leur collectif féministe et en lien en mixité pour des initiatives qu'elles proposaient. Et elles étaient super critiques vis-à-vis du collectif complètement non-mixte. Alors que même elles étaient imprégnées de la pratique de l'autoconscience, donc elles avaient cette pratique pour la question du groupe de parole, en fait. Et du coup, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui était resté. C'était la non-mixité pour le groupe de parole et pas forcément pour les autres activités.
Et bon, pour finir sur le troisième chapitre, donc elle parle des rencontres nationales de Paestrum, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, en décembre 1976. Donc il y a 1500 femmes qui débarquent dans cette station balnéaire, apparemment. Et c'est un succès, vu la participation, mais c'est un échec sur le point de vue théorique, selon le groupe, puisque elle trouve que voilà, il y a des mécanismes d'identification avec les victimes qui sont trop... Enfin, trop lourd, quoi. Je vous lis un passage. Le mécanisme d'une politique qui jouait de l'identification de toutes avec les souffrances de quelques-unes était donc bien visible à Paestrum. La figure des femmes rencontrant des problèmes pour avorter était sur le déclin et à sa place apparaissait celle des femmes victimes de violences sexuelles de la part des hommes. À Paestrum, on parla beaucoup du viol et très peu de l'avortement, bien qu'aucun fait social n'eût motivé ce déplacement d'attention. C'était en fait un phénomène interne à l'imaginaire politique. On sait que, si l'on veut susciter l'identification, il faut faire varier les figures. Celles qui ont beaucoup servi deviennent inefficaces. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je trouve dans les groupes féministes, on fait beaucoup ça, l'identification avec celles qui sont victimes de quoi que ce soit. Et à la fois... moi ça m'agace vraiment beaucoup en fait qu'on critique ça. Enfin, je trouve que c'est bien de le critiquer et de pouvoir le critiquer, et à la fois je trouve que souvent ça va servir une logique un peu je sais pas comment dire, de voilà, faut pas être vulnérable, il faut tout le temps être forte, et je me dis mais putain, on est tellement victime de plein de trucs dans le reste du monde, et par exemple si tu dis voilà, j'ai été violée, on me parle comme à de la merde à mon boulot ou je sais pas, des autres, on va toujours te dire, enfin si t'en parles à des personnes qui sont pas spécialement féministes, souvent on va te dire bah ouais mais c'est ta faute, ma pauvre et tout. Et donc là quand tu en parles dans des groupes féministes, souvent en fait déjà tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui bizarrement rencontrent les mêmes problèmes que toi. Et ça, enfin, ça aide énormément à trouver de la force de pouvoir avoir une place de victime dans ces groupes-là. Après, évidemment, si tu restes dans ton truc de victime, tu t'enfermes dedans, c'est pas cool pour toi. Mais le fait que, quand même, les groupes féministes, ça puisse... Enfin, on puisse vraiment... Et ce truc de la victime, moi, ça m'agace un petit peu. Et dans l'intro aussi, les filles qui ont traduit le livre, ça, c'est le seul reproche un peu, moi, que je fais vraiment. C'est ce truc de la victime, de « ouais, on veut pas se considérer comme des victimes et tout ». Bah ouais, mais en fait, tu veux pas te considérer comme une victime, bah peut-être que t'es pas une victime, alors dis-moi où tu as grandi, ça m'intéresse, tu vois, je vais m'installer tout de suite là-bas, enfin, je sais pas dans quel monde t'as vécu, quoi. Et ce truc de pas vouloir, enfin, de croire qu'on va être forte en niant nos vulnérabilités. Enfin, c'est peut-être un peu de la psychologie à deux balles, tu vois ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est hyper inefficace et que peut-être à court terme, tu te gargarises un peu de ça, mais je pense pas qu'on aille bien loin avec ce genre de mentalité, moi. Voilà.
Et moi, je trouve que... Alors, je me souviens plus de comment ça peut être dit dans l'intro. Enfin, moi, je l'avais plutôt vu comme un truc de justement comment on peut se soutenir et aller ensemble de l'avant et en se disant comment on peut prendre un peu part des expériences des autres, que ce soit des expériences difficiles ou pas, et que elles mettent souvent en avant, ou en tout cas elles réfléchissent dans ce bouquin, je trouve, alors elles en parlent un peu peut-être dans le chapitre 4, mais de justement mettre en avant tout ce qui pourrait être des valeurs dites féminines. Et elles en parlent quand de nouveau des rapports de pouvoir arrivent, quand de nouveau elles s'ennuient, quand de nouveau elles parlent de la passivité, ou des femmes qui, ce que tu disais, des femmes qui parlent pas, pourquoi elles parlent pas et tout ça. Je trouve que c'est pas forcément trop pour le juger, même si des fois elles disent, parce qu'elles en parlent aussi du jugement, en disant finalement, en fait, au début on voulait pas juger dans les groupes de parole, bon bah on se rend compte que c'est compliqué, parce que parler, mettre des mots et tout, bah c'est quand même souvent empreint de jugement, tout ça, donc comment on fait avec ça, mais comment on fait aussi pour valoriser tout ce qui est de, peut-être de ce qui serait mal vu parce que ça serait vu comme féminin, de passivité et autres, et du coup qu'est-ce qu'on fait pour le rendre plutôt positif, en fait, et comment on fait pour s'appuyer là-dessus entre nous et qu'on se voit pas justement comme des victimes, ou comme t'es une femme dans un groupe de femmes et puis tu parles pas, et bah c'est pas grave, en fait, pourquoi tu parles pas, et peut-être que finalement les femmes qui parlent pas, elles ont peut-être plein de choses à dire sans parler, et qu'elles viennent nous dire plein de choses quand elles parlent pas. Et je trouve que c'est que souvent la manière dont elles réfléchissent, alors c'est aussi ce qu'on disait sur le lien avec la théorie, hein, parce que du coup c'est aussi très théorique, très intello, de venir réfléchir à qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi on l'a pas dit, et tout ça. Hein. Mais je trouve que ça, des fois, dans ce que moi j'ai lu, des fois, tu vas m'intéresser en me disant « Ah bah oui, c'est vrai que ça, on peut le voir comme ça. » Tout ça.
Bisogna fare una distinzione anche nel sud. Il proletariato, non parlo del proletariato contadino, è molto libero. La piccola borghesia è ancora ipocrita. E i contadini, allora la situazione è diversa per loro, che non posseggono niente. L'onore della donna è la ricchezza. Perduto quello, si è perduto tutto. Si arriva a questi assurdi che sono certo deprecabili. Una famiglia di 4 figlie muore di fame perché solo il padre è a lavorare. Le figlie non possono andare a lavorare perché possono perdere la verginità lavorando. Allora si sta a casa, ci si nutre di pane e fichi e basta.
Alors, vous êtes toujours sur Lilith Martin et les autres, il est 17h54, notre émission touche à sa fin. Rapidement, donc, pour finir sur la petite présentation résumée qu'on en a fait, nous, du livre « Ne crois pas avoir de droit ». Alors, ce dernier chapitre, le chapitre 4, est assez dense, je dois dire. Je ne sais pas si moi j'ai vraiment tout saisi. Je vais en faire juste parler de choses qui m'ont paru, moi, assez parlantes, puisqu'elle parle dans ce chapitre, donc, de la découverte pour elle de la disparité, et donc du fait que les femmes ne sont pas égales entre elles, et de l'interprétation de ce fait par les femmes elles-mêmes. Elles disent quand elles se rendent compte qu'elles sont pas égales, que finalement elles n'ont d'ailleurs jamais été, elles découvrent qu'elles avaient aucune raison évidente de penser qu'elles l'étaient, et que c'était bien plutôt un idéal d'égalité qui les a fait déformer cette réalité, alors qu'elles pourraient tirer profit de ce qui est là, comme ça est entre elles toutes. Et donc ça les amène à dépasser ce constat et à ne pas vouloir d'ailleurs être égales et à se dire tant pis, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait. Donc pour elle, attribuer de la valeur, de l'autorité à une autre femme, c'est aussi s'en attribuer un peu à soi-même. Elle parle beaucoup de désir, de choses comme ça, alors déjà dans le chapitre 3, et elles disent que reconnaître aussi qu'on a du désir pour ce qu'une autre femme elle possède, c'est aussi avancer, parce qu'il y a tout un paragraphe où elle parle du désir des femmes, où on n'a pas l'habitude de dire ce qu'on veut, qui est souvent nié, et que là, en fait, se rendre compte qu'une femme a quelque chose qu'on aimerait bien avoir ou être, ou tout ça, c'est finalement, plutôt que de prétendre qu'on est tout égal, c'est peut-être plutôt positif de pouvoir nommer ça. Et que la disparité devient alors une source de richesse pour les femmes, entre les femmes, et qu'il faut donc pour elles pratiquer la disparité entre femmes pour se donner de la valeur. Et c'est là qu'elle parle aussi du rapport de confiance. Elle finit pas mal le bouquin là-dessus. Elle parle, donc ce que je disais juste avant, sur la mise en avant et la valorisation de ce qui pourrait être vu dans la société comme des comportements dits féminins et qui seraient dévalorisés. Par exemple, le rejet de la violence, la passivité, toutes les notions de prendre soin des autres, etc. Et du coup, voilà, donc un peu, en gros, ce qu'elles mettent vraiment beaucoup en avant à la fin, alors elles le disent, c'est aussi ce dernier chapitre, c'est aussi ce qu'elles sont au moment où elles l'écrivent, plutôt en train d'expérimenter. Du coup, il y a un peu quelque chose de... Elles l'écrivent, mais on ne sait pas, elles n'ont pas une analyse comme elles ont de ce qui se passait pour elles il y a 10 ans, en fait. Donc c'est vrai qu'on sent qu'elles sont dans ce travail-là, de recherche de se faire confiance, de faire confiance à ses semblables, et en prenant compte de la disparité du groupe des femmes au sein de leur propre groupe, quoi. Voilà. Et il y a un impensé aussi donc pour elle là-dedans, dans ce rapport entre femmes, qui est donc à expérimenter et à inventer, et qui pourrait donner lieu ensuite à une nouvelle façon de fonctionner dans la société, tous et toutes ensemble. Et elles disent, tout sera différent, tant pour les femmes que pour la société entière, si cette aide que nous nous donnons pour survivre devient une alliance qui garantit notre existence sociale. Mais ce ne sera pas pour autant la fin du monde. Divisé en deux pactes, un pacte social qui fonctionnait déjà de manière clivée ne donnera pas lieu au chaos. Cela donnera lieu à une société pensée, gouvernée par des femmes et des hommes, dans laquelle leur différence trouvera les moyens de se signifier librement, de la façon de s'habiller à la manière d'administrer la justice, d'organiser le travail, d'éduquer les enfants. Voilà un peu, j'ai l'impression, alors c'est peut-être pas un idéal, mais en tout cas, elles se disent que pratiquer la différence sexuelle, la disparité entre femmes, le rapport de confiance, ça peut tendre vers un autre moyen de fonctionner ensemble.
C'était donc un résumé du livre « Ne crois pas avoir de droit », écrit par la Librairie des Femmes de Milan, publié aux éditions La Tempête. C'est un très joli bouquin, d'ailleurs, on peut le dire, qui coûte 14 euros, donc c'est pas non plus hyper cher. Un bel objet. Alors, on espère que si vous aviez envie de le lire, mais que vous aviez la flemme, ça vous aura
donné un peu des clés pour en parler quand même.
Ça vous aura contenté, voilà. Et puis, si vous en aviez pas entendu parler, peut-être que ça vous aura donné envie de le lire. En tout cas, voilà. Merci au collectif des traductrices, parce que c'est vraiment hyper chouette d'avoir eu accès à cette expérience. Par ce livre. Et puis merci aussi à Calypso qui nous a envoyé son mémoire sur le féminisme italien. Ça nous a un petit peu donné des clés. Et on se quitte tout de suite avec une chanson sur Ulrike Meinhof.
La città nera, lei scrive ancora. Guarda su un momento, li riconosce ora, ma con le dita lei scrive ancora. Una donna senza casa, senza figli nelle mani, è una donna senza guardiani, ma paura
di lei. la testa.